franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caouet.
En amour.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite avec Stéphane Poitevin et Christophe Boudin aujourd'hui à la technique et assisté de Stéphane Combes et Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Bienvenue donc au Salon du Livre de la Porte de Versailles, cet endroit où, selon les saisons, on croise dans les allées Valentine. Ben oui, Valentine, allons, elle était sur les affiches du Salon de l'Agriculture, c'était une star. Ou bien alors on croise Carlos Ghosn, qui est le président de Renault-Nissan, qui a lu trop de romans d'espionnage quand il était petit, semble-t-il. Et quand ce ne sont pas les animaux de la ferme ou les bagnoles, eh bien ce sont les auteurs qu'on entasse au-dessus d'une feuille format A4, hein, comme les poules, pour signer leur chef-d'œuvre ou bien leur nullité qui dévaste les forêts du Nord ou de l'Asie. Au salon, chaque année, on fait notre moisson de mots nouveaux. Et il y a un an, souvenez-vous, grâce à Fukushima, on a fait la différence, mais alors vite fait, en 8 jours, entre les mots incident, accident et catastrophe. Bon, et comme le printemps n'est pas loin, mais que le grand nettoyage du même nom a déjà commencé, eh bien, l'environnement qui, vous l'avez remarqué, sursature le débat politique. On n'en peut plus, tellement on en parle. Eh bien, ça ressemble environnement à un grand vide-grenier dans cette élection présidentielle. Biodiversité, est-ce que vous en avez entendu parler de ce gros mot? Eh bien, cette fois-ci, tout doit disparaître, y compris ces vieilleries auxquelles on avait fini par s'attacher. Vous savez, Grenelle de l'environnement, taxe carbone, thon rouge, tigre, abeilles, coquelicots, solaire, j'en passe. Bref, une période de pas mal de renoncements à vous désespérer de l'agence Politicus, version monoculture intensive de la pensée avec ses engrais, ces pesticides et ces éléments de langage cuisinés par les ingénieurs chimistes de la communication. Et si à notre tour, pour le grand nettoyage de printemps, on faisait le ménage dans le dictionnaire des générations futures, en commençant par des expressions qui n'auront peut-être bientôt plus cours, du genre huile de palme, tout automobile, tout nucléaire, tout jetable, autorégulation des marchés et sainte concurrence qui vous met l'agriculture du Nord et du Sud gentiment sur les genoux. Quelque chose me dit que l'histoire de ces choses-là n'aura peut-être été qu'une simple parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Donc on va essayer de trouver des mots nouveaux. Et on va le faire avec nos invités, à savoir Éric Orsenna, qui va nous emmener sur la route du papier, Philippe Dubois, qui va nous parler de la grande amnésie écologique, et Natacha Calestrémé pour son testament des abeilles. Amis du Salon du Livre, bonjour à tous. Ah bah oui, ils sont quand même quelques centaines là aujourd'hui. Mais nous avons quand même une actualité avec Isabelle Delannoy qui n'est pas venue, elle, avec un ouvrage, mais avec un coup de gueule parce qu'elle fait partie d'un collectif de femmes qui s'appelle Verte de Rage. D'abord, c'est pas une parenthèse, juste le rappeler. En général, les femmes sont parfois, disons-le, un peu plus courageuses que les hommes en matière d'environnement. On le voit, quelles que soient les tendances d'ailleurs politiques confondues. Vous êtes aussi co-scénariste de Home, hein, on vous a connu de cette manière-là, on vous voit sur France 2. Ce coup de gueule en question, qu'est-ce que c'est?
Déjà, bon, les Verts de Rage, c'est en effet un collectif initié de femmes qui sont professionnelles de l'écologie. Et en fait, on a lancé un appel qu'on a appelé l'appel du 8 mars pour encourager tous ceux qui pensent comme nous, c'est-à-dire que l'écologie a une place principale dans les débats de la présidentielle, qu'elle n'a pas lieu, et de les encourager à s'exprimer et à exiger qu'elles prennent place dans le débat.
On va prendre un exemple, celui de la santé.
Alors, par exemple, voilà. Alors, la santé. Si ce qu'on dit, c'est qu'on nous parle beaucoup de santé, du trou de la sécurité sociale, etc. Or, l'écologie, c'est aussi un problème de santé publique. Aujourd'hui, on a un homme sur deux, une femme sur trois qui déclare un cancer au cours de leur vie. C'est cette augmentation des cancers qui a doublé en 20 ans. On sait maintenant que l'environnement est la première cause de cette augmentation de ces cancers. C'est lié à quoi? C'est lié aux pesticides. C'est lié aux perturbateurs hormonaux qui miment en fait les effets de nos hormones naturelles et qu'on retrouve absolument partout dans notre alimentation, dans les emballages, dans les vernis, dans les colles, dans les plastiques. Et On en a aujourd'hui 856, vous m'entendez ? 856 qui sont en libre circulation.
Alors, Isabelle Delavoye, prenons aussi dans l'actualité ce qui se passe. Donc, stress hydrique sur toute la France. Il n'y a pas eu d'eau au mois de, durant l'automne et durant l'hiver.
On est la France, là, vous avez entendu comme moi hier, que plus de la moitié de la France est entre 60 et 90% de déficit hydrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va toucher notre alimentation, puisque ça va toucher l'agriculture. Ça va toucher un tas de professions, comme celle côtière, avec les ostréiculteurs, les conchyliculteurs. Ça va toucher aussi notre énergie. Mmh. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2003, lors de la canicule,
il a fallu
arrêter ou réduire la production de 17 réacteurs nucléaires. Et voilà, donc en fait, ce que l'on veut dire, c'est que aujourd'hui, nous, on est adeptes du principe de la réalité, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a un droit à une nourriture saine, droit à une eau saine, droit à un air sain, qu'on doit avoir les possibilités de se chauffer, de travailler sans impacter le futur de nos enfants, ni celui des enfants de la planète, et que tout cela fait partie de notre quotidien et que ce n'est pas traité.
Votre coup de gueule, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien reconnaître qu'on a eu le débat, on va dire, sur le nucléaire, c'est-à-dire un peu plus, enfin, on ne bouge pas du côté de l'UMP, un peu moins du côté du PS. Les Verts, bon, eux, sont contre, on le sait. Puis, en gros, c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Hein, donc,
Mais c'est là où c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience, je crois qu'il faut qu'on se le dise, c'est qu'une campagne présidentielle qui a lieu en 2012 et qui ne parle pas d'écologie est d'emblée obsolète. Je vous redonne une autre actualité.
Et pourtant, en 2007, ça marchait. Il y avait Nicolas Hulot qui avait porté ça.
Ça marchait parce qu'on portait. Ouais. Mais je vous redonne une autre actualité. Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils avaient doublé leur production photovoltaïque en 2010. Doublé. Comme l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne sont tous en course pour les énergies renouvelables sur la planète. Et nous, la cinquième puissance économique mondiale, on n'en pipe pas mot dans la présidentielle. C'est là où on a l'impression, enfin, on encourage quand même nos candidats à qu'ils soient de centre, de droite, PS. On entend en fait sur l'écologie aujourd'hui que Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche, on encourage toutes les tendances à nous donner,
et Corinne Lepage
qui n'est pas sûre d'avoir ses 500 signatures, mais on les encourage à vraiment nous donner des solutions, leurs solutions par rapport à ces problèmes, parce que ce sont des vrais problèmes du XXe siècle.
Alors Isabelle Delannoy, donc verte de rage, www.féminin-bio.com, féminin-bio.com, si vous souhaitez donc vous aussi adhérer à cette affaire-là. Eric Orsena, donc vous écoute avec beaucoup d'intérêt, s'intéresse à l'environnement aussi depuis de nombreuses années, même bien avant de ces différents précis de mondialisation. Peut-être réaction, vous aussi qui observez, on va dire, cette campagne, et quand même ce manque flagrant d'environnement, d'écologie dans cette campagne.
Mais Isabelle a raison. Je suis frappé parce que l'excuse qu'on donne pour tant de bêtises, c'est la crise. Comme si, pendant la crise, les questions d'environnement ne continuaient pas. C'est-à-dire les menaces qui pèsent, premièrement. Et deuxièmement, comme si la seule vraie façon de sortir de la crise, c'était de fabriquer ce qui répond aux menaces de l'environnement. C'est-à-dire toutes les filières environnementales, vous avez parlé de l'éolien, de l'hydrolien, du solaire, etc. Donc on est en train de se priver de l'agriculture, bien sûr. On est en train de se priver de tas de filières industrielles. On dit produire en France. Mais produire en France, c'est aussi dans ces secteurs-là, dont tout le monde sait qu'ils vont être moteurs. Vous avez bien vu, par exemple, les drames environnementaux en Chine. Bien, les Chinois, ils répondent, puisque chez eux, c'est des drames.
Mais on est en train aujourd'hui de connaître ces drames environnementaux, sauf qu'on ne les analyse pas comme environnementaux. Je vous donne juste quelques chiffres. En 5 ans, les factures des ménages ont augmenté de 25% pour la santé. Cancer dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Le fioul et le gaz, plus 30%. L'eau, plus 15%. Le carburant, plus 20%. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à la limite d'un modèle qui coûte cher, parce qu'il pollue et qu'il faut dépolluer, et parce qu'il est basé sur des ressources dont le système organise la raréfaction et donc qui deviennent plus chères. C'est pour ça que toutes ces questions sont profondément écologistes.
Et ça rejoint d'ailleurs aussi un peu le thème du livre de Philippe Dubois, donc La grande amnésie écologique, aux éditions de La Chouagne-Niestlé, parce que là, on est en plein dedans. Enfin, juste en une phrase, cette grande amnésie, qu'est-ce que c'est ?
C'est la faculté que l'on a aujourd'hui d'oublier ce qui nous entoure et de faire totalement l'impasse sur ce que l'on a vécu à l'instant précédent. On est dans un monde de l'immédiat, de l'immédiateté, du tout jetable, qui s'oppose complètement au temps long qu'est, par essence même, l'évolution de notre planète.
Mais ça, donc, c'est valable pour plein de choses, pas que pour l'écologie. Quand on est...
C'est valable pour le vivant, c'est valable pour notre société. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans une espèce de fracture temporelle entre un monde qui va aller de plus en plus vite vers ce que je pense être le mur et notre environnement qui a besoin de temps pour s'adapter et pour évoluer. Depuis des millions d'années, ça a été comme ça. Et d'un seul coup, on veut totalement bouleverser le pas de temps de notre planète. C'est là le véritable fracture, la véritable fracture qu'il y a dans notre société.
Alors, il faut le temps, si vous voulez, de la plume qui se pose sur le papier. Ça nous fait un bien fou. Et c'est ce qu'a voulu faire Eric Orsenna donc avec cet ouvrage donc, qui s'appelle « Sur la route du papier ». Autrement dit, nous suivons le carnet de route d'un Tintin académicien qui remonte le fleuve du papier, qui avait déjà abordé, alors pas directement ce thème-là, mais qui avait déjà parlé de l'EVA dans l'exposition coloniale. Et puis il s'est dit, attendez, moi j'ai eu un très, très gros succès, mais quand même derrière, ça représentait 280 tonnes de papier quand même, cette exposition coloniale. Et donc ça fait partie en fait du troisième voyage que vous avez effectué, après la route du coton, après donc la route de l'eau, là c'est la route du papier. Et en fait c'est une soupe de fibres hein, qu'on étale et qu'on assèche. Depuis combien de temps en fait existe le papier, Eric Orsenna ?
Les plus vieux papiers qu'on a découverts à ce jour, parce que peut-être on en découvrira de plus anciens, c'était 2 siècles avant Jésus-Christ. Et c'est au nord de la Chine qu'on les a découverts, pas parce qu'ils avaient été forcément inventés là, mais le nord de la Chine, vous savez, est extrêmement sec, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déserts, Gobi, Taklamakan, c'est là qu'on les a trouvés. Donc il semblerait que le papier ait été inventé en Chine 2, 3, 4 siècles avant Jésus-Christ. Il est resté asiatique pendant 9 siècles, d'abord la Chine, donc ensuite beaucoup la Corée. Il est arrivé au Japon vers l'an 600. Et en 750, les Arabes remportent sur les Chinois une bataille près de Samarcande. Et ils découvrent à Samarcande de formidables artisans chinois. Et ils découvrent une technique et une matière, le papier, qu'ils ne connaissaient pas.
Alors là, c'est très intéressant parce que, en fait, quelques mots sur ce calife qui s'appelait le calife Al-Mansour, qui choisit donc en 762 la ville de Bagdad hein, pour capitale. Et qui choisit aussi le papier parce qu'il oblige à être honnête. Racontez-nous.
Alors, il oblige à être honnête parce que par rapport au parchemin, qui est donc des peaux d'animaux, ou par rapport au papyrus, qui sont des fibres de roseau, quand vous grattez le papier, ça se voit. Alors que quand vous grattez de parchemin, c'est beaucoup plus simple de gratter sans que ça se voit. Donc, c'est beaucoup plus difficile de tricher sur le papier que tricher sur les autres surfaces. Et donc, il se dit, comme j'ai administré un immense empire, puisque imaginez ce que c'est à cette époque. Donc, on est au 8e siècle. Et l'empire d'influence arabe va de Samarcande, l'Ouzbékistan actuel, jusqu'à Séville. Donc, c'est gigantesque. Donc, il faut avoir des écrits fiables.
Il faut être sûr, oui, de
sûr. Ça. Ouais. Ça, c'est la première raison de leur admiration pour le papier. Et la deuxième raison, c'est qu'en 9 ou 10 siècles, les Chinois ont eu le temps de faire des surfaces extrêmement douces et d'inclure sur la surface des tas de calligraphies de toutes sortes. Ils disent, ben voilà, on va inscrire la parole de Dieu sur le papier. Et donc, il y a des femmes, il y a des grandes histoires comme ça, où on voit 100, 1000, 2000 femmes qui, jour et nuit, calligraphient le Coran un peu partout, à Damas, à Bagdad, dans toutes les capitales du haut savoir religieux de toute cette sphère musulmane.
Alors comment se fait-il en fait que l'Europe ait tardé avec le papier ? Parce qu'on a eu donc nos moines copistes et en fait les parchemins leur suffisaient pour leurs enluminures.
Alors,
et leurs copies.
En fait justement, donc ça suffisait aux seuls qui écrivaient, c'était les moines. Mais en même temps, étant donné que le papier était utilisé pour reproduire une pensée qui était considérée comme impie, c'est-à-dire le Coran, évidemment, on ne pouvait pas avoir sur la même surface les textes de la chrétienté et les textes du Coran. Donc, ils ont interdit. Alors, il y avait tous les endroits européens qui étaient sous influence musulmane, c'est-à-dire l'Espagne, évidemment, fabriquait du papier, mais pas ailleurs dans toute l'Europe. Et le papier arrivait soit par Venise, soit par Gênes. Tous les gens qui voyaient du papier trouvaient ça absolument merveilleux. Et il a fallu qu'il y ait un petit village au cœur de l'Italie, où j'ai bien sûr été, qui s'appelle Fabriano, où là, on a commencé par faire un premier moulin parce qu'il y a des meules, hein, on doit comme ça casser un peu les fibres, tout ça. Et puis, il y en a eu un premier, 5, 10, et puis en 30 ans, les fabriques de papier se sont répandues, évidemment, dans toute l'Europe. Donc, ce qui m'a passionné, c'est que, comme toujours, je voulais rendre hommage à ce papier, mais je ne savais pas, et Dieu sait si on écrit des histoires sur le papier, mais je ne savais pas que le papier lui-même était le plus formidable des personnages. Donc je découvrais, comme souvent avec les matières premières, un personnage absolument irremplaçable. Quel personnage tient la scène pendant 22 siècles ? Et évidemment, incluant des améliorations, parce qu'on dit que le papier, c'est très récent,
non, c'est très scientifique, hein, d'ailleurs.
Extrêmement scientifique, ouais. et qui inclut les nouvelles technologies, puisque, par exemple, quand on parlait des questions de santé, imaginez que on greffe des virus, on est en train de greffer des virus juste à la surface du papier pour tuer les bactéries. Vous imaginez l'utilité pour nos chers papiers hygiéniques.
Alors, mais bien sûr, on va y arriver très très vite. Donc, au XVIIIe siècle, on va dire que ça commence à être le boom du papier chez nous en France. Donc, on ira vite sur les frères Montgolfier en Ardèche, on leur rend hommage, etc.
Premier vol habité, la Montgolfière, c'est un mélange de papier et de coton, et qui part du château de la Muette, dans le 16e aujourd'hui, et qui arrive dans ma chère Butokai. Butokai, oui, directement, c'était prédestiné.
C'est ça, vous l'avez
pratiquement
vu arriver, donc voilà. Après 8 kilomètres.
D'ailleurs, Butokai, j'en profite, puisque j'ai un champion de la Ligue de protection des oiseaux à côté de moi.
Mais oui,
Butokai, aucun rapport avec la caille, non. C'est juste un terrain qui appartenait à Monsieur Caille.
Oui, c'est ça.
Donc, désolé pour la LPO.
Bon, bah, c'est tant pis pour la LPO. Si on se fait un petit état des lieux maintenant, parce que c'est quand même une émission qui parle aussi d'environnement, donc écologie et papier. Dans le monde, on produit 400 millions de tonnes de produits, donc de papier, qui vont servir pour le papier, pour le carton, pour le papier toilette, effectivement, tout confondu. Où en est-on, je dirais, aujourd'hui ? Quels sont le papier que nous avons là, c'est-à-dire qui a servi à faire des photocopies, il vient d'où ?
Alors, le papier, il peut venir d'un peu partout. Le papier qui sert pour le graphique, c'est-à-dire les livres, les magazines, etc., il vient plutôt de papier de fibres relativement courtes, parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit très solide. Et il peut venir aussi des forêts du Nord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux grandes catégories de forêts. Il y a les forêts du Nord qui poussent lentement, et qui produisent des fibres assez longues. Donc ce sont des papiers qui sont en général solides. Et puis maintenant, de plus en plus dans le sud, il y a qui ne sont pas des forêts, des plantations. Des plantations d'eucalyptus qui poussent extrêmement vite, puisqu'on atteint 25 mètres en 5 ans et 2-3 mois.
C'est pour ça que c'est l'arbre préféré des financiers.
Alors oui, mais en même temps, et c'est là ce que j'aime dans les enquêtes, c'est que quand on a su, mes copains écologistes, quand ils ont su que je travaillais sur le papier, ils m'ont dit « J'espère que tu vas dire à quel point l'eucalyptus est une plante nulle. » Alors, je me suis informé et j'ai vu que l'eucalyptus, si on a besoin de papier, est une plante productive qui fait bien son boulot. Mmh. Et si vous comparez la production en bois, équivalent de production en bois, eh bien, l'eucalyptus demande moins à la terre et demande moins en eau, oui, que notre cher bon vieux chêne.
J'ai vu que un
kilo... J'adore, moi, dans ces enquêtes, aller contre les idées reçues. Oui. Une autre idée reçue, c'est de dire qu'une forêt où n'entre pas l'homme est plus préservée qu'une forêt qu'on gère avec responsabilité. Eh bien, pour moi, la nature, ce n'est pas une nature sans être humain. C'est une nature où il y a un respect, où il y a une interaction entre les êtres humains et la nature. Et j'ai vu dans les Landes une forêt globalement bien gérée. Et parce que j'ai évidemment été beaucoup dans les Landes où j'ai vu des grands défenseurs de la nature.
Alors, juste pour l'eucalyptus, tout ceci, bon, tout à fait d'accord. Sauf si on doit dégager de la forêt primaire pour replanter.
Exactement.
Qui du jatropha ou qui de l'eucalyptus.
Alors, justement, le Brésil, qui est 16 fois et demi la France, il y a des endroits terrifiants. C'est le nord du Mato Grosso, où vous déforestez, notamment pour planter du soja qui vont nourrir les animaux. Mais dans l'endroit où j'ai été, la forêt dite native était déjà coupée. Et ce que j'ai vu, moi, sur une toute petite plantation d'eucalyptus de 617 000 hectares, c'était honnêtement, et tout ça étant vérifié par un certain nombre d'ONG, dont le WWF, bien géré, c'est-à-dire on préservait en gros 30% de la forêt native, et le reste était bien géré. L'avantage de l'eucalyptus, c'est que ça plante tellement vite qu'on ne détruit pas le paysage. C'est-à-dire qu'au bout de, déjà quelques mois, vous avez déjà des arbres qui font 1,5 m à 2 m. Donc vous pouvez avoir des plantations en mosaïque. Voilà, alors on peut dire, bon, pourquoi a-t-on tant besoin de papier ? Très bien, mais c'est un autre sujet sur le mode de consommation. Et moi, ce que je dis, c'est que si on a besoin de papier, autant avoir ces plantations-là que déforester, comme en Amazonie et comme à Sumatra, des forêts qui datent de 800 ans pour faire du PQ.
Alors ça, on va revenir effectivement sur Sumatra, parce que c'est tout à fait important. Et donc, vous avez aussi enquêté avec Asia Pulp Paper, donc une très, très grosse fabrique de papier. Et puis, on va aussi parler du recyclage. Je sais, vous avez croisé des abeilles ou pas pendant votre voyage ou...
Peu d'abeilles. Alors, ce que je voulais vous dire, d'ailleurs, c'est, on va en reparler là-dedans, parce que quand vous dites, ce qui est bien dans notre CO2, l'émission, c'est qu'on ne pense pas en rond. Non. Sauf qu'en fait, il vaut mieux penser en rond maintenant. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que la pensée circulaire était souvent beaucoup plus intelligente que la pensée linéaire.
Bah, c'est-à-dire, c'est le recyclage. Oui. Mais vous avez raison, parce que...
Un tout petit peu pour une modification de votre... Pardon, Denis Chessou, pardon. Mais vous voyez à quel point je suis vigilant, et comme mon amour est exigeant.
Bah, voilà, mais on avait le double sens de penser en rond, comme vous le savez, mais vous avez raison, la nature, de toute façon, elle fonctionne lorsqu'elle recycle, elle fonctionne en rond.
Et non pas la chose habituelle,
c'est-à-dire, on extrait un matériau, on le transforme en produit, on le consomme, et puis après, on le jette. Ça, c'est du linéaire. Voilà.
Allez,
youpi, musique.
Voilà.
Oh, c'est bien. On peut faire son jardin et écouter l'herbe pousser avec CO2 Mon Amour et Denis Chessou.
Ce matin, princesse, je veux être le roi. Je veux vous voir courir et agiter les bras. Je veux être un pacha, un gros machin tout. Ne pas bouger un pouce et ne pas tordre un genou. Je vous veux à mon aise, princesse. Répondre à mes caprices d'actrice. M'amener sur un plateau des délices de pistache. Puis me tailler la moustache en me chantant du Janis. Apportez-moi une couronne, princesse. Une canne avec un bout d'or de Meknès. Je veux, depuis ma fenêtre, vue sur le marché de Barbès, crier parisien, parisienne, je vous ai compris. Ce matin, princesse, faisons de notre chambre un royaume d'ivresse à la barbe des normes. C'est un ordre divin, oui, descendez plus bas et faites de moi le plus fou des rois. Est mort, il a la gueule de bois, alors vive le roi et pourvu qu'elle le soigne. J'ai pas besoin de cours, princesse, non, pas besoin de beaux discours. De questions, veux-tu m'apporter tout ce qui me plaît et me délester du poids de la journée qui sera royale et placée sous le signe des doigts de pied en éventail. Allez, cours, princesse, ça te changera, ça te raffermira tes fesses un peu plates. Cours, princesse, fais de moi ton chef, je ferai de toi la reine de Barbès. Gratte-moi le dos, craque-moi les os, embrasse-moi la peau tandis que je dors. Ce matin, princesse, je veux être le roi le plus fainéant de toute l'histoire.
Choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, c'était Vincha Royal, notre premier disque. Hop, c'est parti pour les abeilles.
Ouais. De désastres écologiques qui s'annoncent.
Vous ramassez vos cadavres et puis...
Est-ce que c'est les abeilles qui ne naissent pas ?
S'il n'y a plus d'abeilles, l'homme n'aura plus grand-chose à manger au niveau fruits et légumes.
Est-ce que c'est les butineuses qui ne reviennent pas à la ruche ?
Nous avons des problèmes. Nous avons perdu 45% de nos abeilles. J'ai perdu près de 70% de mes colonies.
Aujourd'hui, l'espèce humaine est en danger et il y a une urgence planétaire.
Cela fait 20 ans que les apiculteurs subissent de graves mortalités d'abeilles. Un matin, ils découvrent leurs ruches vidées de leurs ouvrières ou parfois un tapis de cadavres. Mais depuis novembre 2006, l'hécatombe a pris une telle proportion que dans des régions entières d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, les arbres ne donnent plus de fruits faute d'avoir été pollinisés. Une disparition qui touche aussi bien les abeilles domestiques que les butineurs sauvages.
Voilà, donc,
qui est responsable de ces milliards de morts?
Un extrait donc de la disparition des abeilles, la fin d'un mystère. C'était un documentaire en 2008 signé Natacha Calestrémé et qui revient avec cet ouvrage qui s'appelle Le Testament des abeilles aux éditions Albin Michel. Alors là nous sommes dans le polar, c'est-à-dire que ces abeilles vous ont inspiré un polar. Nous sommes en fait à Paris. Et on a un certain nombre de morts complètement inexpliquées qui ont lieu dans ce Paris. On cherche, on n'a pas de mobile, il n'y a pas d'arme du crime, il n'y a pas d'empreinte, donc on étudie à peu près toutes les pistes du psychopathe au serial killer, au bioterroriste. Bon, on ne trouve pas. Il y a quand même une prophétie très intéressante d'un moine. Racontez-nous ça.
Alors effectivement, il y a une prophétie qui est écrite par le moine aux abeilles et qui semble inspirer ce meurtrier qui court Paris. Et donc nous avons deux équipes, la police judiciaire et la crime, qui vont chercher à décrypter, je dirais, cette prophétie pour essayer de trouver quel est l'instigateur de ces homicides.
Alors, c'est un polar donc, qui est très très bien ficelé. Vous avez bossé avec des chercheurs du CNRS, là, j'ai vu aussi, donc, pour vraiment, parce que c'est quand même très étayé hein, d'un point de vue scientifique. Et puis, il y a aussi, on va pas dévoiler l'affaire, mais il y a quand même un gamin qui s'appelle Nathan qui est extrêmement important.
Alors, Nathan, dans le livre...
C'est un surdoué, quoi. Hein,
oui, c'est un surdoué, c'est un passionné de nature. Il a l'intuition de la nature. Et il va, à travers le livre, en fait, donner des indications sans forcément le savoir. Et c'est à travers lui, en fait, un message que j'avais envie de donner. C'est-à-dire que si on reste l'enfant, si on continue à se poser la question et à envisager la Terre et notre environnement comme un enfant l'envisage, tout est possible. Tout est envisageable et on peut reconstruire et réinventer l'environnement.
Et donc ce garçon qui, sur la fin du livre, voit cette petite araignée qu'il aime bien, qui s'appelle Viviane, et se dit que je vais peut-être obligé de sacrifier quelque chose dans la nature. Bon, avec une abeille qu'il voit, donc prisonnière de cette Viviane, elle se dit non, et elle part et elle vole. Voilà, donc c'est un peu une métaphore aussi.
Oui, je pense que tout est possible. Et d'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce que disait Isabelle au début, c'est-à-dire que je crois que nous sommes victimes au niveau de l'environnement de notre discours. C'est-à-dire que très souvent, on est défaitiste. On pointe les choses en disant... c'est associé au catastrophisme. Et aujourd'hui, les gens en ont marre. Ils ont envie qu'on leur donne des bonnes nouvelles. Et ils n'ont pas envie d'associer l'environnement à que des choses négatives. Et je pense que nos politiques, s'ils avaient compris que les gens ont envie de bonnes nouvelles et de choses qui les rassurent, parce qu'ils en ont ras-le-bol à la crise, eh bien, il faudrait qu'ils montrent des lois qui vont dans le bon sens des choses, qui font que, et c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que vous faites, qu'on aille vraiment dans le positif en disant, voilà, par rapport à l'économie d'énergie, on peut apporter telle solution. Par rapport au problème d'hormones et de dérivés des parfums qui sont des dérivants endocriniens, on peut amener des lois pour tester ces produits. Il y a des solutions et moi j'avais envie à travers ce livre de montrer qu'on peut aborder l'environnement sous une forme ludique, un polar, mais aussi en amenant des choses positives, concrètes et qui vont dans le bon sens.
À l'origine, en 2005, vous regardez un article d'un professeur allemand. Qu'est-ce que c'était ?
Alors oui, ça c'est l'origine du livre. C'est-à-dire que je lis un article que le professeur et chercheur Heinz Rietkatz, un Allemand, avait écrit pour démontrer que un gène et s'était transmis en fait d'un plan OGM à l'abeille par le biais d'une bactérie. Ce phénomène-là, normalement, doit se faire en plusieurs milliers d'années. Mmh. Et en simplement une année, il s'était rendu compte que ce gène avait été transmis à l'abeille. Et donc, cette bactérie qui avait transmis, nous l'avons, nous, dans notre corps. Et donc, en lisant cet article, je me suis dit, mais c'est fabuleux, parce qu'il y a matière à écrire un livre futuriste, et j'avais imaginé une mortalité des abeilles qui, à l'époque, n'était pas arrivée, une mortalité, je dirais, mondiale et catastrophique. Mmh. Et ce phénomène-là est arrivé, je dirais, un an et demi plus tard, et c'est comme ça que j'ai pu, je dirais, j'avais tous les éléments, puisque j'avais commencé vraiment à chercher la question pour écrire ce livre qui est arrivé beaucoup plus tard, et qui n'est malheureusement pas futuriste, mais actuel, pour monter donc un documentaire, et c'est le documentaire que vous avez passé tout à l'heure, un extrait.
et qui a reçu pas mal de prix. Hein. Disparition des abeilles, la fin d'un mystère. Alors, ce que l'on dit, maintenant, si on fait un tout petit point quand même sur cette disparition des abeilles, on entend dire, bon, c'est multifactoriel, de la part de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien de la part de la FNSEA, de la part du monde de la chimie, de la part des... Alors, j'apprécie aussi que les vétérinaires font un bon boulot de terrain aujourd'hui, parce que c'est eux quand même qui veillent aussi donc, à l'état des cheptels de ces fameuses abeilles. Mais est-ce que ce côté multifactoriel, c'est pas une manière de dire, c'est pas moi, c'est eux ?
Ah ben, c'est parfaitement résumé, c'est-à-dire que je n'aime pas cet aspect-là, d'autant plus que si on regarde, et c'est vraiment l'enquête que j'ai menée à la fois pour ce bouquin et pour mon film, on se rend compte qu'il ne faut pas confondre cause et conséquence. C'est-à-dire que l'abeille est atteinte par différentes pathologies. Donc il y a le varroa, qui est une espèce de tic, il y a le nosema, qui est un champignon, il y a des virus israéliens de la grippe. Mais tout ça, l'abeille et le monde le connaît depuis des milliers d'années. Oui. Pourquoi aujourd'hui elle est touchée ? Tout simplement parce qu'elle est affaiblie. Et elle est affaiblie parce qu'elle a un problème de santé, elle est touchée par les pesticides. Et alors, ce n'est pas n'importe quel pesticide, parce qu'un herbicide ne tue pas l'abeille. Un fongicide contre les champignons ne tue pas l'abeille, mais un herbicide associé à un fongicide crée ce que disent les chercheurs du CNRS et de Supagro et de l'INRA, des cocktails en fait chimiques qui créent des mortalités de 90% en 24 heures. Et c'est...